fori. Nem da Deus meu, de ni piedade, de gusto infelici, tristu peccadori. Chi sale i tua trasgredi uati? Divina bontà di chi tu governas, te venas eternas faigi mi salvi.
Alors nous parlons de cette rencontre qui aura lieu en Espagne, rencontre pour l'humanité contre le néolibéralisme, rencontre intercontinentale. Donc la première avait été organisée sous l'égide des zapatistes. J'imagine que vous auriez espéré que certains commandants des zapatistes puissent venir, ou en tout cas des représentants de ce mouvement, ceux qui peuvent voyager. Est-ce qu'ils vont venir? Tu as dit finalement que sûrement pas.
Bon, si on parle de les ZLN, donc de l'armée même, je pense que c'est totalement irréaliste d'avoir pensé un seul instant qu'ils pourraient venir, bien que, bon, l'an passé, ils nous ont dit qu'ils feraient l'impossible pour être présents. Mais étant donné la situation qu'ils vivent actuellement au Chiapas, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Les routes sont coupées, pour ainsi dire. Et ils sont totalement isolés. Leur problème, avant tout, c'est même de se déplacer chez eux d'un kilomètre ou deux. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient... On ne peut même pas envisager qu'ils se déplacent et qu'ils viennent. Personnellement, je rappelle simplement que quand il y a eu le congrès indigène à Mexico au mois d'octobre, l'automne passé, les autorités mexicaines ont autorisé une zapatiste à sortir du Chiapas, c'était donc la commandante Ramona, qui a dû sortir escortée de cordons, mètre après mètre, pour être protégée. Donc, la présence de l'armée de libération est tout à fait exclue. Par contre, il reste un point d'interrogation par rapport au front zapatiste, qui est donc la partie civile proche des zapatistes, la partie de la société civile. Nous attendons toujours de leur part une réponse claire. Pour le moment, ils ne se sont pas vraiment annoncés, mais nous espérons quand même qu'ils vont envoyer des délégués.
Parce que justement, ça fait une année, on ne sait plus très bien ce qui se passe autour du Chiapas. La rencontre l'été dernier s'est terminée par les négociations qui continuaient avec le gouvernement, mais ces négociations aujourd'hui sont rompues.
Oui, alors les négociations ont été rompues pendant le... Il y a eu une période de crise à peu près à l'époque de Noël. Il y avait donc eu des pourparlers depuis février 96. Ça fait plus que ça, ça fait à peu près 30 mois qu'il y a eu des pourparlers au cours desquels les zapatistes ont discuté avec une patience infinie avec le gouvernement mexicain. Et on était donc arrivé à des accords qu'on a appelés donc les accords de San Andrés. Et ces accords donc traitaient du statut des indigènes et en particulier de la question très délicate de l'autonomie. Et donc après ça, il y a eu la rencontre et pratiquement un mois après la rencontre de l'été passé, le dialogue a été officiellement interrompu parce que le gouvernement n'avait absolument rien fait pour mettre en pratique les accords et enfin les rendre opérationnels. Les pourparlers ont repris plus ou moins avec beaucoup de difficultés et on est arrivé juste avant Noël à une sorte de consensus, un projet de loi qui était admis et par les zapatistes et par la COCOPA, c'est-à-dire une organisation qui regroupe des parlementaires de tous les partis, qui a été nommée par le gouvernement. Donc, et zapatistes et COCOPA étaient d'accord pour présenter un projet de loi qui ferait véritablement évoluer la situation des indigènes et qui transformerait la Constitution. Alors, tout ça, tout le monde était relativement heureux d'être arrivé à cette solution. Et voilà que lorsque ce projet a été présenté au président Zedillo, il a tout simplement opposé une fin de non-recevoir. Il a crié à la balkanisation, au séparatisme, au danger que ça représentait de morceler le Mexique. Et il a fait une contre-proposition que les apatistes ont jugée tout à fait vide de sens, et même insultante, et même raciste, et même anticonstitutionnelle. Et les apatistes, à ce moment-là, ont dit, vraiment, on se fiche de nous. Et c'est pas possible d'accepter cette contre-proposition. Et c'est donc depuis ce moment-là que tout s'est arrêté et qu'on est entré dans cette période assez angoissante de stagnation. Angoissante parce que, comme on peut le dire fréquemment, quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas de pourparlers, il y a le risque de guerre qui se manifeste immédiatement. Et puis, effectivement, ça n'a pas tardé parce que la réponse du gouvernement au rejet des apatistes de leur contre-proposition, ça a été depuis janvier une militarisation absolument terrifiante du Chiapas. Et pas seulement du Chiapas d'ailleurs, de toutes les provinces, de tous les États plutôt mexicains, où la population indigène réveillée par les apatistes avait commencé à s'organiser. Donc actuellement il y a au Chiapas, on estime, une présence militaire de à peu près 30 000 soldats. Et nous qui avions déjà été très très choqués l'été passé par la présence militaire que nous avons décrite à plusieurs reprises, on sait maintenant que cette présence est encore accrue. Ce qui est nouveau aussi, c'est que c'est toute la région où se trouve le commandement général de l'armée zapatiste qui est totalement encerclée. Une nouvelle base militaire a été construite à peu près 10 km de la Realidad, ce qui veut dire que la tête de l'armée zapatiste est pratiquement coupée de toutes les autres communautés. Chaque communauté est plus ou moins encerclée elle-même, ce qui cause évidemment au niveau pratique des situations assez désespérante parce que les gens ne peuvent plus communiquer entre eux puisqu'on ne passe plus par les routes et puis on ne peut plus aller cultiver les champs. C'est la raison pour laquelle on avait lancé au niveau international cette campagne maïs cet automne et les besoins en nourriture évidemment depuis Noël sont encore accrus. Donc on peut dire que c'est un peu miraculeusement que les contacts... je rigole un peu parce qu'on vient de parler d'Internet. Et si on se replace dans le contexte là-bas, on sait que les gens se déplacent à pied, nus, à travers les collines, les montagnes, et qui s'apportent les nouvelles comme ça de bouche à bouche. Et que ce type de contact, maintenant, est fortement mis en question. Et la peur s'installe dans la mesure où les nouvelles ne circulent plus. Donc la situation est assez grave actuellement. Il faut aussi que je dise quelques mots sur les groupes paramilitaires, je pense. On en a déjà beaucoup parlé, mais leur activité est décuplée. Ils se sentent très très forts, étant donné que le gouvernement maintenant... Enfin, le gouvernement n'a jamais levé le petit doigt pour les empêcher d'agir. Ce sont donc des groupes qui sont financés par les grands propriétaires et qui interviennent d'une manière complètement anarchique et souvent extrêmement violente. Là, on vient de recevoir une nouvelle. Le mois passé, une petite communauté qui était en fait divisée entre priistes, c'est-à-dire indiens partisans du parti d'État, soigneusement payé, soigneusement encouragé. Donc cette communauté était divisée entre priistes et sympathisants zapatistes. Elle a été, lors d'une discussion, d'une mésentente, tout à coup, elle a été envahie par 200 policiers et ses gardes blanches. Et voilà, ça fait 17 blessés, ça fait 4 morts. Et ce sont des nouvelles qui, pour nous, qui suivons les événements, sont banales, parce qu'elles semblent se répéter chaque semaine. Mais il y a un nombre de blessés, un nombre de gens qui meurent de faim, un nombre de morts qui s'accumulent. Et quand on regarde les choses sur une petite échelle et qu'on sait que ce sont des phénomènes qui sont répétés semaine après semaine, on ne peut qu'être plein d'admiration pour la constance et le courage de ces populations.
Anne, il y a des choses qui te semblent encore importantes de rajouter concernant le changement de la situation au Mexique.
Oui, alors dans ce tableau de l'aggravation de la situation, je crois qu'il faut citer un problème nouveau, c'est-à-dire la répression qui s'exerce maintenant contre les observateurs étrangers. Ça peut toucher certaines personnes d'ici qui se seraient posé la question d'aller au Chiapas cet été ou à un autre moment participer au campement pour la paix. Hein, c'est ces campements qui existent depuis 3 ans dans lesquels certains étrangers font acte de présence dans les communautés, ce qui donne aux communautés une certaine protection. Et bien maintenant, depuis donc c'est dans ces derniers mois, les observateurs étrangers sont mal vus, non seulement mal vus, mais ils commencent à être expulsés. Là, on a reçu la nouvelle au mois d'avril d'une douzaine de personnes, des Européens, qui étaient simplement là, présents comme observateurs dans une manifestation de paysans au Chiapas. Les paysans leur avaient demandé d'être présents comme protection par rapport à la police et à l'armée. Ces gens étaient là et ils sont fait prendre et expulsés du pays. Alors certains ont résisté, se sont réfugiés à Mexico dans un centre des droits de l'homme et ont fait appel, ont fait recours contre cette expulsion. Ces gens-là, donc ils étaient une dizaine, sont restés bloqués dans ce centre pendant plusieurs semaines avant d'avoir une réponse. Et on a même dit que ce centre a été attaqué par des gens armés, une vingtaine de gens armés de couteaux. Hein. C'est dire que ce sont des formes maintenant de haine vis-à-vis de la présence étrangère, de la solidarité internationale. qui sont permises et qui passent maintenant. Et c'est un signe assez alarmant de ce qui se passe.
C'est d'autant plus alarmant que, effectivement, une des stratégies des apatistes, ça aurait été de ne pas se laisser enfermer dans le chapas, de ne pas dire que c'est un problème seulement indigène. Mmh. Et donc, effectivement, ces appels aux étrangers, c'était une manière, bien sûr, de désenclaver la lutte, mais aussi, effectivement, de dire notre lutte, c'est votre lutte. Et à tel point que Marcos, par exemple, aurait pu dire et a dit quelque chose, un conseil aux Suisses qui vont voter la semaine prochaine sur l'arrêt de l'exportation de matériel militaire, puisqu'il a envoyé une lettre de soutien aux Suisses en disant « Envoyez-nous des chocolats plutôt que des Pilatus ».
Oui, c'était surtout une lettre de remerciement pour l'argent qui avait été envoyé pour les communautés, pour la campagne maïs. Et je cite simplement parce que c'est à la fois amusant et tragique en même temps. Marcos dit « Nous apprécions que le peuple suisse, que du peuple suisse ne nous arrive pas seulement des avions Pilatus que le mauvais gouvernement mexicain utilise pour nous bombarder, mais que nous parviennent aussi la voix et le souffle de ceux qui, même dans l'Europe sceptique, luttent pour l'humanité. » PS, Dorito, c'est donc le petit animal fétiche qui l'accompagne toujours, me charge de vous dire qu'il préfère que vous lui envoyiez des chocolats plutôt que des bombardiers. Ceci pour dire que lors des votations du 8 juin, on peut se souvenir du Chiapas.
Voilà, alors quand vous direz oui à l'initiative contre l'exportation d'armes, vous pourrez encore rajouter un petit chocolat dans l'urne.
Pour Dorito.
Pour Dorito. On arrive à la fin de notre émission. Il va y avoir encore donc d'autres événements. Le 15 juin, entre autres, des femmes mexicaines viendront parler à Genève.
Oui, trois femmes mexicaines, dont une femme indigène. Elle s'appelle Las Brujas, donc les sorcières. Je ne sais pas plus pour l'instant, je suis très, très curieuse de voir ce qu'elles nous amènent. Donc en principe, elles vont nous parler de la situation des femmes et du mouvement féministe au Mexique, de la situation des femmes indigènes. Ce n'est pas forcément la même chose parce que parfois quand je regarde ce qu'elles font les femmes indigènes, j'ai l'impression qu'elles doivent partir de zéro. Vraiment, tout ce qui pour nous est quand même acquis, pour elles, non, du tout. Justement, j'en branche parce que troisième point, ce serait la révolution des femmes au Chiapas parce que ce qu'elles font, elles, de revendiquer un certain nombre de droits, c'est une vraie révolution. Et puis, la violence, de la violence qu'il y a contre les femmes. Je cite simplement pour exemple que dans la loi révolutionnaire des femmes du Chiapas qu'elles ont élaborée l'année dernière, il y a notamment l'interdiction de l'alcool. Je pense... peut-être qu'on peut laisser à chacune de s'imaginer ce qui est derrière. Donc, alcool, violence contre les femmes, c'est le lot quotidien des femmes indigènes au Chiapas et ailleurs, je pense, au Mexique. Alors, on va nous parler de tout ça. Ça sera le dimanche 15 juin à 20h au site. Donc, c'est la vieille ville face à l'ancienne prison. S'il fait beau temps, on pourra prendre un petit verre avec nous avant ou après dans la cour du site.
Et puis, un livre est paru qui a pour titre « Chronique intergalactique ». Et qui reflète tout ce qui s'est discuté, ce qui s'est dit lors de la première rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Anne, c'est vraiment le reflet, toi qui l'as lu, moi je ne l'ai que parcouru, de tout ce qui a été discuté, annoncé, etc. pendant cette discussion, cette rencontre.
Oui, semble
un travail énorme.
Je crois que ça a été fait très, très fidèlement, puisque lors de la première rencontre, tous les soirs... le maximum était mis par écrit et qu'à la fin de la première rencontre, on en a eu pour des heures et des heures de déclarations. Et ces déclarations sont consignées mot pour mot dans ce livre qui en plus est extrêmement touchant et beau grâce à ses photographies.
Et puis grâce à ses textes si magnifiques aussi des apatistes qui ont toujours un style spécial.
Oui, il y a les textes des apatistes, il y a les textes de les grandes déclarations de Marcos. Et puis, je pense que pour qui est un peu un peu curieux et critique, parce que je pense qu'il y a, de quoi être critique par rapport à certains de ces, textes qui refont un peu le monde et qui brassent un peu trop de choses, peut-être. Malgré tout, le livre donne un reflet très fidèle de, tout ce qui s'est dit et puis d'une, qualité de réflexion qui est tout de même assez nouvelle. Alors, on peut trouver ce livre à la librairie du Boulevard. Et j'encourage tous ceux qui s'y intéressent d'aller vite le chercher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Des chroniques intergalactiques.
Voilà. J'aimerais terminer par un nouvel appel. Effectivement, il y a alors deux choses. J'aimerais dire. Premièrement, il y a effectivement un mouvement qui a imaginé que Don Samuel Ruiz, qui est l'évêque de Saint-Christobal, pourrait recevoir le prix Nobel pour la paix. En effet, depuis 85, mais déjà 95, mais déjà avant, Don Samuel Ruiz travaille pour rétablir un peu plus de justice et d'équité pour les indigènes au Chiapas. Et pour cela, d'ailleurs, il est détesté par le gouvernement mexicain et par les autorités du Chiapas. Et depuis la révolte zapatiste, l'évêque Don Samuel Ruiz fait un peu le lien entre le gouvernement, la société civile et l'armée des zapatistes de libération. Donc il y a un appel pour proposer à l'Institut Nobel de donner, d'accorder le prix Nobel pour la paix cette année à Don Samuel Ruiz. Ça aurait non seulement un effet de reconnaissance de son travail, mais ça aurait sûrement un impact pour la suite de son travail. Donc voilà, si vous avez des renseignements à demander, vous vous adressez au comité Viva Zapata à Genève. On rappellera l'adresse plus tard. Mais moi, j'aimerais terminer par de nouveau une de ces magnifiques textes de Marcos, puisque finalement, quand même, toutes ces rencontres se font sous l'égide du mouvement zapatiste. Il s'est adressé directement au père, à son père spirituel, puisqu'il a écrit une lettre à Zapata directement.
Ah, il faut que je la trouve. Ouais, il y a une lettre de Marcos à Zapata qu'il a écrite au moment du 1er mai. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, c'est ici que nous sommes et que nous allons continuer, mon général. Nous sommes là parce que les gouvernements continuent d'oublier les indigènes, que les riches propriétaires fonciers continuent sous d'autres étiquettes à dépouiller les paysans de leurs terres. Comme à l'époque où vous appeliez à lutter pour la terre et la liberté, aujourd'hui les terres mexicaines sont livrées à de riches étrangers. Comme vous êtes mort, aujourd'hui les gouvernements font la loi pour légitimer le vol des terres. Comme autrefois, ceux qui refusent les injustices sont persécutés, emprisonnés et tués. L'histoire n'a pas changé. Et vous le voyez, il continue d'y avoir des paysans sans terre, des indigènes laissés pour compte, de mauvais gouvernements et des riches qui s'engraissent, s'enrichissent, et ainsi les rébellions paysannes vont continuer aussi. Elles vont continuer, mon général, parce que sans terre ni liberté, il n'y a pas de paix. Maintenant, les gouvernements disent qu'il n'y a pas de guerre. Mais si, il y en a une, mon général, et c'est pourquoi nous sommes votre armée.
Alors nous rappelons peut-être en conclusion que la deuxième rencontre intercontinentale pour l'humanité contre le néolibéralisme aura lieu du 25 juillet au 3 août. Et si vous voulez encore vraiment vous inscrire, il faut appeler Brigitte Brotman. Tu peux rappeler ton numéro de téléphone, Brigitte.
Alors c'est le 345 97 60.
Ou bien faxer pour demander des informations au comité Viva Zapata. Et c'est le
022 740 0740. Donc 740 0740.
Voilà, alors pour aujourd'hui c'est terminé et Viviane, on se propose de terminer avec un clin d'œil à la guerre d'Espagne.
Ben oui, puisque cette rencontre aura lieu en Espagne, que peut-être il y aura un rappel de ce mouvement, cette guerre qui a quand même marqué toute l'Europe, la guerre d'Espagne. Nous écoutons son interprétation par le Revolutionary Army,
Liberation Music Orchestra
de Charlie Haden et de Carla Bley.